From the conference center at Temple Square,
diffusé depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Voici la session du samedi matin de la 187e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprété par le Mormon Tabernacle Choir. Des membres des officiers de l'Église du monde entier se réunissent pour recevoir les conseils et les enseignements de leurs dirigeants ecclésiastiques. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Henry Ehring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi matin de la 187e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous sommes heureux d'accueillir les membres et les amis de l'Église qui suivent cette conférence partout dans le monde. Nous saluons la présence des autorités générales et officiers généraux qui assisteront à toute cette conférence. Nous exprimons notre amour et nos salutations à Thomas Monson, le président de l'Église, qui suit cette conférence depuis son domicile. La musique de cette session sera interprétée par le Mormon Tabernacle Choir sous la direction de Mac Wilberg et Ryan Murphy, avec Richard Elliott et Andrew Unsworth à l'orgue. Le chœur a ouvert cette réunion en chantant « Disciples du Seigneur » et interprétera à présent « Arise, O God, and shine ». Larry Lawrence, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture.
Thank you. Our Father in heaven,
notre Père éternel, nous t'aimons, nous sommes si reconnaissants du schéma inspiré de la conférence générale que tu as établi dans l'Église dans ces derniers jours. Nous te sommes reconnaissants des efforts de tant d'acteurs qui apportent ce message à travers le monde. Pour beaucoup, cette session sera la première fois qu'ils ont connaissance de l'Église. Et nous te prions qu'ils puissent ressentir la majesté de ton Église et la gloire de ton Évangile, de sa lumière, et qu'ils puissent ressentir sa véracité. Beaucoup d'entre nos propres membres sont venus à cette session avec des défis, des problèmes, des questions dans leur cœur. S'il te plaît, bénis-les, afin que grâce au Saint-Esprit, leurs questions puissent avoir des réponses. Nous apprécions tant, Père, le don de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, et nous prions en son nom. Nous te prions que notre prophète bien-aimé, Thomas Manson, soit réconforté et béni. Fais-lui savoir l'amour qu'il y a dans le cœur des membres de l'Église à travers le monde. Nous te prions pour toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
Le chœur va maintenant chanter « Dieu veuille nous garder », le numéro 9 dans le recueil des cantiques français. Après le cantique, nous aurons le plaisir d'entendre Dieter Ohrdorf, deuxième conseiller dans la première présidence. Il sera suivi par Bonnie Oscarsson, présidente générale des jeunes filles, puis Dallin Oaks, du Collège des 12 apôtres, s'adressera à nous.
Je pense que nous pouvons ressentir les assemblées apprécier cette musique et penser Père Céleste bénit notre prophète. Il y a près d'un siècle, une famille d'Oregon passait Mes chers frères et sœurs, je sais que le président Monson est très reconnaissant pour votre amour, vos prières, votre dévouement au Seigneur et pour cet évangile. Frères et sœurs, il y a près d'un siècle, une famille d'Oregon passait ses vacances en Indiana, à plus de 3200 kilomètres de chez elle, lorsqu'elle perdit son chien bien-aimé, Bobby. Dans tous ses états, elle le chercha partout, mais en vain. Elle ne put le retrouver. Le cœur brisé, elle prit le chemin du retour, chaque kilomètre l'éloignant un peu plus de son animal chéri. 6 mois plus tard, la famille fut stupéfaite de trouver Bobby sur le seuil de sa porte en Oregon. Galeux, rachitique, les pattes usées jusqu'à l'os, il semblait avoir parcouru toute la distance, à pied, seul. L'histoire de Bobby captiva l'imagination des gens dans tous les États-Unis et il fut connu sous le nom de Bobby, le chien extraordinaire. Bobby n'est pas le seul animal à avoir déconcerté les savants par son sens de l'orientation et son instinct étonnant pour entrer chez lui. Certains papillons monarques migrent en groupe chaque année sur plus de 4800 kilomètres vers des cieux plus adaptés à leur survie. Les tortues luttes traversent l'océan Pacifique depuis l'Indonésie jusqu'aux côtes de la Californie. Les baleines à bosse font l'aller-retour entre les eaux froides des pôles Nord et Sud et l'équateur. Peut-être encore plus incroyable, les sternes arctiques font l'aller-retour chaque année entre le cercle arctique et l'Antarctique, quelques 97 000 kilomètres. Lorsque les savants étudient ce comportement fascinant, ils posent des questions telles que « Comment savent-ils où aller ?» et « Comment les générations suivantes apprennent-elles ce comportement ?» Quand je lis de la documentation sur cet instinct très fort chez les animaux, je ne peux m'empêcher de me demander, est-il possible que les êtres humains aient une aspiration semblable, un dispositif de navigation interne, pour ainsi dire, qui les attire vers leur foyer céleste? Je crois que chaque homme, chaque femme et chaque enfant a ressenti l'appel des cieux à un moment ou un autre de sa vie. Nous avons, profondément enfoui en nous, le désir de tendre les bras au-delà du voile d'une façon ou d'une autre pour étreindre des parents célestes que nous avons connus et aimés. Certains peuvent réprimer cette aspiration et assourdir leur âme à son appel. Mais les personnes qui n'éteignent pas cette lumière intérieure peuvent entreprendre un voyage incroyable, une migration merveilleuse vers les cieux. Le message sublime de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est que Dieu est notre Père, qu'il se soucie de nous et qu'il existe un moyen de retourner auprès de lui. Dieu vous appelle. Il connaît chacune de vos pensées, chacun de vos chagrins et chacun de vos plus grands espoirs. Il sait combien de fois vous l'avez recherché, combien de fois vous avez ressenti de la joie sans limite, combien de fois vous avez pleuré dans la solitude. Combien de fois vous vous êtes senti impuissant, avez été troublé ou en colère? Cependant, quelle que soit votre histoire, que vous ayez faibli ou échoué, que vous vous soyez senti brisé, amer, trahi ou battu, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu vous appelle encore. Le Sauveur vous tend la main. Et comme il l'a fait à ces pêcheurs il y a longtemps sur les berges de la mer de Galilée, avec un amour infini, il vous dit, viens et suis-moi. Si vous voulez bien l'écouter, il vous parlera aujourd'hui même. Lorsque vous emprunterez le chemin du disciple, lorsque vous avancerez vers notre Père Céleste, quelque chose au-dedans de vous confirmera que vous avez entendu l'appel du Sauveur et que vous avez tourné votre cœur vers la lumière. Cela vous dira que vous êtes sur le bon chemin et que vous êtes en train de rentrer à la maison. Depuis le début des temps, les prophètes de Dieu exhortent leurs contemporains à obéir à la voix de l'Éternel leur Dieu, à observer ses commandements et ses statuts, et à revenir vers lui de tout leur cœur et de toute leur âme. Les Écritures nous expliquent des milliers de raisons pour lesquelles nous devrions nous tourner vers le Seigneur. Aujourd'hui, je vais mentionner deux de ces raisons pour lesquelles nous devrions nous tourner vers le Seigneur. Premièrement, votre vie sera meilleure. Deuxièmement, Dieu vous utilisera pour améliorer la vie d'autres personnes. Je témoigne que lorsque nous nous embarquons ou persévérons dans le voyage incroyable qui conduit à Dieu, notre vie est meilleure. Cela ne veut pas dire qu'elle sera exempte de chagrin. Nous connaissons tous des disciples fidèles du Christ qui ont subi des tragédies ou des injustices. Jésus-Christ lui-même a souffert plus que quiconque. Tout comme Dieu fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, de même, il permet à l'adversité d'éprouver les justes et les injustes. En fait, il semble parfois que notre vie soit plus compliquée parce que nous essayons de vivre selon notre foi. Pour sûr, suivre le Sauveur ne fera pas disparaître toutes vos épreuves. Cependant, cela fera disparaître les obstacles entre vous et l'aide que votre Père Céleste veut vous apporter. Dieu sera avec vous, il guidera vos pas, il marchera à vos côtés et même vous portera lorsque vous en aurez le plus besoin. Vous goûterez les fruits sublimes de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité. Ces fruits spirituels ne sont pas un produit de la prospérité matérielle, de la réussite ou de la chance. Ils nous sont donnés quand nous suivons le Sauveur. Et ils peuvent être nos assistants fidèles, même au cœur des tempêtes les plus sombres. Les feux et les tumultes de la condition mortelle peuvent menacer et effrayer. Mais les personnes qui orientent leur cœur vers Dieu seront entourées de sa paix. Leur joie ne sera pas atténuée. Elles ne seront ni abandonnées, ni oubliées. Les Écritures enseignent, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Les personnes qui obéissent à l'appel intérieur et recherchent Dieu, celles qui prient, qui croient et empruntent le chemin que le Sauveur a préparé, peuvent parfois trébucher le long de ce chemin, mais elles reçoivent l'assurance consolatrice que tout concourra à leur bien. Car Dieu donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Car sept fois, le juste tombe et il se relève. Et le Seigneur, dans sa grande bonté, nous demande, voulez-vous connaître la joie durable? Aspirez-vous à sentir dans votre cœur la paix qui surpasse toute intelligence? Alors, tournez votre âme vers la lumière. Entamez votre merveilleux voyage de retour au foyer. Si vous le faites, votre vie sera meilleure, plus heureuse et prendra plus de sens. Vous vous rendrez rapidement compte que le chemin qui vous ramène à notre Père Céleste ne consiste pas uniquement à vivre sa propre vie. Non, ce chemin amène inévitablement à devenir une bénédiction dans la vie des autres enfants de Dieu, vos frères et sœurs. Et ce qui est intéressant à propos de ce voyage, c'est qu'en servant Dieu, en prenant soin et en aidant vos semblables, vous verrez des progrès se produire dans votre vie de façon inimaginable. Peut-être ne vous sentez-vous pas très utile. Peut-être ne vous estimez-vous pas être une bénédiction pour quelqu'un. Souvent, lorsque nous portons un regard sur nous-mêmes, nous ne voyons que nos limites et nos faiblesses. Nous pouvons penser que nous devons être plus de quelque chose pour que Dieu puisse nous utiliser, plus intelligent, plus riche, plus charismatique, plus talentueux, plus spirituel. Les bénédictions découlent bien plus de vos choix que de vos compétences. Et le Dieu de l'univers œuvrera en vous et à travers vous, magnifiant vos humbles efforts pour ses desseins. Son œuvre a toujours progressé selon ce principe important. C'est des petites choses que sort ce qui est grand. Lorsqu'il écrivait au sein de Corinthe, Paul a fait remarquer que peu d'entre eux seraient considérés comme sages selon les critères du monde. Mais cela n'avait aucune importance parce que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. L'histoire de l'œuvre de Dieu est remplie de personnes qui s'estimaient incompétentes, mais elles ont servi humblement, se reposant sur la grâce de Dieu et sa promesse. Leur bras sera mon bras, et je serai leur protection, et ils combattront vaillamment pour moi, et je les préserverai. L'été dernier, notre famille a eu la merveilleuse occasion de visiter certains sites de l'histoire des débuts de l'Église dans l'Est des États-Unis. D'une manière toute particulière, nous avons revécu l'histoire de cette époque. Des personnes dont j'avais lu l'histoire, telles que Martin Harris, Oliver Cowdery et Thomas Marsh, sont devenues plus réelles, tandis que nous marchions là où elles avaient marché et réfléchissions aux sacrifices qu'elles avaient faits pour édifier le royaume de Dieu. Elles avaient de nombreuses qualités qui leur ont permis d'apporter une contribution importante au rétablissement de l'Église de Jésus-Christ. Mais elles étaient également humaines, faibles et faillibles, tout comme vous et moi. Certaines se trouvèrent en désaccord avec Joseph Smith, le prophète, et s'éloignèrent de l'Église. Plus tard, nombre de ces mêmes personnes connurent un changement de cœur, s'humilièrent, recherchèrent et retrouvèrent la compagnie des saints. Nous pourrions avoir tendance à juger ses frères et d'autres membres comme eux. Nous pourrions dire, je n'aurais jamais abandonné le prophète Joseph. Bien que cela puisse être vrai, nous ne savons pas vraiment comment était la vie à cette époque et dans ces circonstances. Non, il n'était pas parfait. Mais combien il est encourageant de savoir que Dieu a pu quand même les utiliser. Il connaissait leurs forces et leurs faiblesses, et il leur a donné la possibilité extraordinaire de fournir un couplet ou une mélodie pour l'hymne glorieux du rétablissement. Combien il est encourageant de savoir que bien que nous soyons imparfaits, si les inclinaisons de notre cœur se tournent vers Dieu, ce dernier sera généreux et bon et nous utilisera pour accomplir ses desseins. Les personnes qui aiment et servent Dieu et leur prochain et participent humblement et activement à son œuvre verront des choses prodigieuses se produire dans leur vie et dans celle de leurs êtres chers. Des portes qui semblaient fermées s'ouvriront. Des anges les précéderont et prépareront la voie. Quel que soit votre poste dans la collectivité ou dans l'Église, Dieu vous utilisera si vous êtes bien disposé. Il magnifiera vos désirs justes et transformera les actions bienveillantes que vous semez en une moisson abondante de bonté. Nous sommes tous des étrangers et des pionniers, et nous sommes tous éloignés de notre foyer. Mais nous ne devons pas nous sentir seuls, car Dieu nous a donné la lumière du Christ, qui profondément, chacun de nous, nous incite à tourner nos cœurs et nos yeux et nos esprits vers lui, en faisant ce pèlerinage vers notre demeure céleste. Cela nécessite des efforts. On ne peut pas y aller sans chercher à le connaître, à apprendre ses instructions et à mettre sincèrement un pied devant l'autre. Non, la vie n'est pas un véhicule autonome. Ce n'est pas un avion en pilotage automatique. Vous ne pouvez pas flotter sur les eaux de la vie et être confiant que le courant vous emportera un jour là où vous le souhaitez. Notre condition de disciple nous impose de devoir nager à contre-courant lorsque cela est nécessaire. Personne d'autre n'est responsable de votre voyage personnel. Le Sauveur vous aidera et préparera la voie devant vous. Mais l'engagement de le suivre et de respecter ses commandements doit venir de vous. C'est là votre fardeau, votre seul privilège. C'est votre grande aventure. S'il vous plaît, écoutez l'appel de votre Sauveur. Le Seigneur a établi l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours pour vous soutenir dans votre engagement à servir Dieu et votre prochain. Son objectif est de vous encourager, vous instruire, vous édifier et vous inspirer. L'Église vous donne des occasions de faire preuve de compassion, de tendre la main aux autres et de renouveler et respecter des alliances sacrées. Elle est conçue pour votre bien et pour améliorer votre foyer, votre collectivité et votre pays. Venez, rejoignez-nous et faites confiance au Seigneur. Offrez vos talents à son œuvre merveilleuse. Tendez la main à tous ceux qui désirent ressentir et écouter l'aspiration à retrouver leur foyer céleste. Encouragez-les, guérissez-les et soutenez-les. Unissons-nous dans ce magnifique pèlerinage vers les cieux. L'Évangile est un message transcendant d'espérance, de bonheur et de joie. C'est la voie qui nous conduit chez nous. En embrassant l'Évangile par la foi et l'action, chaque jour et chaque heure, nous nous rapprocherons un peu plus de Dieu. Notre vie sera meilleure et le Seigneur nous utilisera de manière remarquable pour faire du bien à notre entourage et mener à bien ses desseins éternels. J'en témoigne et je vous donne ma bénédiction. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Récemment, nous avons été témoins d'un grand nombre de catastrophes naturelles touchant le Mexique, les États-Unis, l'Asie, les Antilles et l'Afrique. Elles ont fait ressortir ce qu'il y a de meilleur chez les gens qui sont intervenus par milliers pour aider les personnes en danger, dans le besoin ou qui ont perdu des proches. C'est avec un immense plaisir que j'ai vu des jeunes filles du Texas et de Floride qui, avec beaucoup d'autres, avaient revêtu le t-shirt jaune, des mains serviables, et aidaient à débarrasser les maisons des décombres à la suite des récents ouragans. Des milliers d'entre vous se seraient volontiers rendus au centre d'aide si la distance l'avait permis. Au lieu de cela, vous avez fait des offrandes généreuses pour soulager la souffrance. Votre générosité et votre compassion sont inspirantes et à la ressemblance de celle du Christ. Aujourd'hui, je vais parler d'un aspect du service qui est important pour nous tous, où que nous habitions. Pour tous ceux d'entre nous qui ont suivi les informations concernant les récentes catastrophes et qui ne savent pas quoi faire, la réponse est très probablement devant nos yeux. Le Sauveur a enseigné, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Le président Monson a fait la remarque suivante concernant cette écriture. Je crois que le Sauveur nous dit qu'à moins que nous nous perdions dans le service, notre vie ne sert pas à grand-chose. Les gens qui ne vivent que pour eux-mêmes finissent par se dessécher et, au sens figuré, perdre leur vie, tandis que ceux qui se perdent au service d'autrui progressent et s'épanouissent et, en fait, sauvent leur vie. Nous vivons dans une culture où nous sommes de plus en plus concentrés sur le petit écran que nous tenons en main, beaucoup plus que sur les gens qui nous entourent. Nous avons remplacé par l'envoi de SMS et la publication de tweets le regard direct dans les yeux de quelqu'un, le sourire ou, chose encore plus rare, la conversation face à face. Nous sommes souvent plus préoccupés par le nombre de nos abonnés ou de « j'aime » que de poser la main sur l'épaule d'un ami et lui montrer de l'amour et un intérêt tangible. Aussi remarquable que soit la technologie moderne pour répandre le message de l'Évangile de Jésus-Christ et pour nous aider à maintenir les liens avec les membres de notre famille et avec nos amis, si nous ne prenons pas garde à la façon dont nous utilisons nos appareils personnels, nous pouvons, nous aussi, commencer à nous refermer sur nous-mêmes et à oublier que l'essence de l'Évangile en action est le service. J'éprouve un amour immense pour vous, les adolescents et les jeunes adultes, et j'ai une grande foi en vous. J'ai vu et ressenti votre désir de servir et d'améliorer le monde. Je pense que la plupart des membres considèrent que le service est au cœur de leurs alliances et de leurs conditions de disciples. Mais je pense aussi qu'il est parfois difficile de manquer de grandes occasions de servir les autres parce que nous avons l'esprit ailleurs ou parce que nous cherchons des manières ambitieuses de changer le monde et ne voyons pas que certains des besoins les plus importants auxquels nous pouvons répondre se trouvent au sein de notre famille, parmi nos amis, dans notre paroisse et dans notre collectivité. Nous sommes émus de voir la souffrance et les besoins immenses des personnes qui se trouvent à l'autre bout du monde, mais nous ne voyons pas qu'il y a quelqu'un assis à côté de nous en classe qui a besoin de notre amitié. Linda Burton a raconté l'histoire d'une présidente de société de secours qui, dans les années 90, avait collecté, avec l'aide d'autres personnes, des couvertures pour les nécessiteux. Sa fille et elle ont conduit un camion rempli de ces couvertures piquées de Londres au Kosovo. Sur le chemin du retour, cette sœur a reçu une impression spirituelle sans ambiguïté qui a pénétré profondément dans son cœur. L'impression était la suivante. Tu as fait une très bonne chose. Maintenant, rentre chez toi, traverse la rue et va rendre service à ton voisin. Quel intérêt y a-t-il à sauver le monde si nous négligeons les besoins des personnes les plus proches de nous et de celles que nous aimons le plus? Quelle valeur y a-t-il à reconstruire le monde si les gens qui nous entourent s'effondrent sans que nous nous en rendions compte? Il se peut que notre Père Céleste ait placé les personnes qui ont besoin de nous le plus près de nous, sachant que nous sommes le plus à même de répondre à leurs besoins. Tout le monde peut trouver le moyen de rendre un service chrétien. Ma conseillère, Carol McConkie, m'a parlé récemment de sa petite fille de 10 ans, Sarah, qui, lorsqu'elle a vu que sa mère était malade, a décidé toute seule d'aider. Elle a réveillé sa petite sœur, l'a aidée à s'habiller, à se brosser les dents, l'a coiffée et a préparé le petit déjeuner afin que sa mère puisse se reposer. Elle a discrètement accompli ce petit acte de service sans qu'on le lui demande, parce qu'elle a vu un besoin et a eu le désir d'aider. Sarah a fait du bien à sa mère. Mais je suis sûre qu'elle a aussi ressenti de la joie, sachant qu'elle avait allégé le fardeau de quelqu'un qu'elle aimait et en même temps avait renforcé sa relation avec sa sœur. James Faust a dit « On peut commencer à rendre service presque à n'importe quel âge. Il n'est pas nécessaire qu'il soit à grande échelle et le plus noble se rend au sein de la famille. » Les enfants, voyez-vous combien cela signifie pour vos parents et les membres de votre famille que vous cherchiez des occasions de servir chez vous? Pour vous, les adolescents, renforcer et servir les membres de votre famille devrait faire partie de vos priorités absolues, tandis que vous cherchez des moyens de changer le monde. Lorsque vous faites preuve de gentillesse et de sollicitude pour vos frères et sœurs, vous favorisez une atmosphère d'unité et la présence de l'esprit dans votre foyer. On change le monde en commençant par fortifier sa famille. Un autre endroit où nous pouvons rendre service est au sein de notre autre famille, qui est notre paroisse. Parfois, nos enfants nous demandaient « Pourquoi est-ce que je dois aller aux activités d'échange? Ça ne m'apporte pas grand-chose. » Si j'étais bien disposée, je répondais « Qu'est-ce qui te fait penser que tu vas aux activités d'échange pour en retirer quelque chose ?» Mes jeunes amis, je peux vous assurer qu'il y aura toujours, dans chaque réunion de l'Église à laquelle vous assistez, quelqu'un qui se sent seul, qui traverse des difficultés, qui a besoin d'un ami ou qui a l'impression de ne pas être à sa place. Ce que vous apportez à chaque réunion ou à chaque activité est important. Et le Seigneur désire que vous regardiez les camarades qui vous entourent, puis que vous serviez comme il le ferait. Todd Christopherson a enseigné « L'une des principales raisons pour lesquelles le Seigneur a une Église est de créer une communauté de saints qui se soutiendront mutuellement sur le sentier étroit et resserré qui conduit à la vie éternelle. » Il ajoute « Dans notre religion, on ne se préoccupe pas uniquement de soi. Nous sommes tous appelés à servir. Nous sommes les yeux, les mains, la tête, les pieds et d'autres membres du corps du Christ. » Il est vrai que nous assistons aux réunions hebdomadaires de l'Église pour participer aux ordonnances, apprendre la doctrine et recevoir l'inspiration. Mais une autre raison importante est que, en tant que famille de la paroisse et disciples du Sauveur Jésus-Christ, nous veillons les uns sur les autres, nous nous encourageons et nous trouvons des moyens de nous servir et de nous fortifier mutuellement. Nous n'allons pas simplement recevoir et prendre ce que l'Église offre. Notre présence est nécessaire pour ce que nous pouvons donner et apporter. Jeunes filles et jeunes gens, la prochaine fois que vous participerez à une activité d'échange, au lieu de prendre votre téléphone pour voir ce que font vos amis, arrêtez. Regardez autour de vous et posez-vous la question « Qui a besoin de moi aujourd'hui ?» Il n'y a peut-être que vous qui puissiez tendre la main à un camarade et toucher sa vie ou encourager un ami qui connaît des difficultés sans le montrer. Demandez à notre Père Céleste de vous montrer les personnes de votre entourage qui ont besoin d'aide et de vous faire connaître la meilleure manière de les servir. Souvenez-vous que la plupart du temps, le Sauveur a servi une personne à la fois. Notre petit-fils Ethan a 17 ans. Cela m'a touché cet été lorsqu'il m'a dit qu'inspiré par l'exemple de sa mère, il prie chaque jour pour avoir l'occasion de servir quelqu'un. Tandis que nous passions du temps avec sa famille, j'ai observé la patience, l'amour et la gentillesse avec lesquelles Ethan traite son frère et ses sœurs, aide ses parents et cherche des moyens de tendre la main aux autres. Je suis impressionnée de voir combien il fait attention aux personnes qui l'entourent et désirent les servir. Il est un exemple pour moi. En faisant comme Ethan, en demandant au Seigneur de nous aider à trouver des moyens de servir, nous permettons à l'Esprit de nous ouvrir les yeux afin de voir les besoins des personnes qui nous entourent ainsi que la personne qui a besoin de nous aujourd'hui et sachions comment la servir. En plus de rendre service aux membres de votre famille et de votre paroisse, cherchez des occasion de servir dans votre quartier, votre collectivité. Nous sommes parfois appelés à aider après une grande catastrophe, mais il nous est recommandé de chercher au quotidien des occasions de servir dans notre région afin d'édifier et d'aider les personnes dans le besoin. Récemment, j'ai reçu les enseignements d'un président d'interrégion servant dans un pays qui connaît de nombreuses difficultés matérielles. Il a dit que la meilleure façon d'aider les personnes dans le besoin dans d'autres parties du monde est de faire une offrande de jeûne généreuse, de verser au fonds d'aide humanitaire de l'Église et de chercher des moyens de servir les personnes de notre collectivité où que nous vivions. Imaginez combien le monde entier serait béni si tout le monde suivait ce conseil. Frères et sœurs, et particulièrement vous les jeunes, si vous faites des efforts pour devenir davantage comme le Sauveur Jésus-Christ, respectez vos alliances, vous continuerez d'avoir le désir de soulager la souffrance et d'aider les personnes moins favorisées. Rappelez-vous que certains des besoins les plus importants se trouvent peut-être juste sous vos yeux. Commencez par servir chez vous et dans votre famille. Ce sont les relations qui peuvent être éternelles, même et peut-être particulièrement si votre situation familiale n'est pas parfaite. Vous pouvez trouver des moyens de servir, d'édifier et de fortifier. Commencez là où vous êtes. Aimez les membres de votre famille tels qu'ils sont et préparez-vous en vue de la famille que vous souhaitez avoir un jour. Priez pour avoir de l'aide pour reconnaître les membres de votre paroisse qui ont besoin d'amour et d'encouragement. Au lieu d'aller à l'église en vous demandant « qu'est-ce que cette réunion va m'apporter ?» demandez-vous « qui a besoin de moi aujourd'hui ?» Qu'est-ce que je peux apporter? En faisant du bien aux membres de votre famille et de votre paroisse, cherchez des moyens de faire la même chose pour votre collectivité locale. Que vous puissiez consacrer beaucoup de temps ou juste quelques heures par mois au service, vos efforts changeront des vies et seront pour vous une source de bienfaits que vous ne pouvez même pas imaginer. Le président Kimball a enseigné, Dieu nous remarque et veille sur nous, mais c'est généralement par l'intermédiaire d'une autre personne qu'il répond à nos besoins. Je prie pour que nous soyons tous conscients du privilège et de la bénédiction de participer à l'accomplissement de l'œuvre de notre Père Céleste en répondant aux besoins de ses enfants. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
La déclaration sur la famille est un rappel important par le Seigneur des vérités de l'Évangile dont nous avons besoin pour nous défendre contre les attaques que subit actuellement la famille. Comme en atteste clairement notre déclaration sur la famille, les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ont la bénédiction d'avoir une doctrine unique et différentes manières de voir le monde. Nous nous engageons et excellons même dans de nombreuses activités du monde. Mais sur certains sujets, nous nous abstenons, cherchant à suivre les enseignements de Jésus-Christ et de ses apôtres, anciens et modernes. Dans une parabole, Jésus parle des personnes qui entendent la parole, parole qui devient infructueuse parce qu'elle est étouffée par les soucis du siècle et la séduction des richesses. Plus tard, Jésus reproche à Pierre de ne pas apprécier les pensées de Dieu, mais celle des hommes, et déclare, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Dans ses derniers enseignements, il dit à ses apôtres, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, le monde vous hait. » De même, les écrits des premiers apôtres de Jésus emploie fréquemment l'image du siècle ou du monde pour représenter l'opposition aux enseignements de l'Évangile. L'apôtre Paul a enseigné « Ne vous conformez pas au siècle présent, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. » Il a dit aussi « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur le Christ. » L'apôtre Jacques a enseigné « L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Le livre de Mormon utilise souvent cette image de l'opposition du monde. Néphi a prophétisé la destruction finale des gens qui sont édifiés pour devenir populaires aux yeux du monde, et ceux qui recherchent les choses du monde. Alma a condamné ceux qui sont boursouflés des choses vaines du monde. Le rêve de Lehi montre que les personnes qui s'efforcent de suivre la barre de fer, la parole de Dieu, rencontrent l'opposition du monde. Lehi a vu les occupants du grand et spacieux édifice se moquer et montrer du doigt avec mépris. Dans sa vision, où une interprétation du rêve lui est donnée, Néphi a appris que cette moquerie et cette opposition venaient des multitudes de la terre, le monde et sa sagesse, l'orgueil du monde. Quelle est la signification de ces avertissements et commandements des Écritures de ne pas être du monde, ou du commandement moderne de délaisser le monde? Le président Monson a résumé ainsi ses enseignements. Nous devons être vigilants dans un monde qui s'est autant éloigné de ce qui est spirituel. Il est essentiel que nous rejetions tout ce qui n'est pas conforme à nos principes et refusions d'abandonner ce que nous désirons le plus, la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Conformément à son plan, Dieu a créé cette terre pour fournir à ses enfants d'esprit un endroit où vivre l'expérience de la mortalité, étape nécessaire pour accéder aux gloires qui leur destinent à tous. Il existe différents royaumes et différentes gloires, mais le désir suprême de notre Père Céleste pour ses enfants est ce que le président Monson appelle la vie éternelle dans le royaume de Dieu, qui est l'exaltation en famille. C'est plus que le salut. Russell M. Nelson nous a rappelé ceci. Dans le plan éternel de Dieu, le salut est une affaire individuelle, mais l'exaltation est une affaire familiale. L'évangile rétabli de Jésus-Christ et la déclaration inspirée sur la famille, dont je parlerai plus tard, sont des enseignements essentiels pour nous guider et nous préparer ici-bas à l'exaltation. Nous devons vivre avec les lois et autres traditions d'un monde en déclin. Mais les personnes qui s'efforcent d'atteindre l'exaltation doivent faire des choix personnels de vie familiale qui soient en accord avec les voies du Seigneur chaque fois que celles-ci diffèrent des voies du monde. Dans la condition mortelle, nous n'avons pas souvenir de ce qui a précédé notre naissance. Et aujourd'hui, nous rencontrons l'opposition. Nous progressons et devenons plus mûrs spirituellement en choisissant d'obéir aux commandements de Dieu par une succession de choix justes. Ces choix comprennent les alliances et ordonnances requises et le repentir quand nos choix sont mauvais. En revanche, si nous manquons de foi dans le plan de Dieu et sommes désobéissants, ou si nous nous abstenons délibérément de faire ce qui est exigé, nous renonçons à cette progression et à cette maturité. Le livre de Mormon enseigne que cette vie est le moment où les hommes doivent se préparer à rencontrer Dieu. Les saints des derniers jours qui comprennent le plan de Dieu pour notre salut ont sur le monde une perspective unique qui les aide à comprendre la raison des commandements de Dieu, la nature immuable des ordonnances qu'il requiert et le rôle fondamental de notre Sauveur Jésus-Christ. L'expiation de notre Sauveur nous libère de la mort et, à condition que nous nous repentions, nous sauve du péché. Du fait de cette perspective sur le monde, les saints des derniers jours ont des priorités et des pratiques distinctives et ont la bénédiction d'avoir la force de résister aux frustrations et aux douleurs de la condition mortelle. Inévitablement, le comportement des gens qui essayent de suivre le plan du salut de Dieu peut susciter une incompréhension ou même des conflits avec les membres de leur famille ou leurs amis qui n'adhèrent pas à ces principes. Ce conflit existera toujours. Toutes les générations qui ont cherché à suivre le plan de Dieu ont rencontré des difficultés. Jadis, le prophète Ésaïe a redonné de la force aux Israélites en disant d'eux, « Vous qui connaissez la justice, qui avez ma loi dans le cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. » Mais quelle que soit la cause du conflit avec les gens qui ne comprennent pas le plan de Dieu ou n'y croient pas, il est toujours commandé à ceux qui le comprennent et qui y croient de choisir les voies du Seigneur plutôt que les voies du monde. Le plan de l'Évangile que chaque famille doit suivre pour se préparer à la vie éternelle et à l'exaltation est résumé dans la déclaration de 1995 de l'Église, la famille déclaration au monde. Ce qu'elle proclame est bien sûr manifestement différent de certaines lois, pratiques et apologies actuelles du monde dans lequel nous vivons. À notre époque, les différences les plus notables sont le concubinage, le mariage entre personnes du même sexe et le fait d'élever des enfants dans le cadre de ces relations. Les personnes qui ne croient pas ou n'aspirent pas à l'exaltation et qui sont totalement convaincues des voies du monde considèrent que cette déclaration sur la famille n'est rien qu'un énoncé de règles qui doit être changé. Les saints des derniers jours, eux, affirment que la déclaration sur la famille définit le genre de relation familiale au sein desquelles peut se produire la plus importante partie de notre développement éternel. Nous avons observé l'acceptation rapide et de plus en plus répandue que par le public du concubinage et du mariage entre personnes du même sexe. Le soutien qui leur est accordé dans les médias, le système scolaire et même les règlements professionnels pose de réelles difficultés au sein des derniers jours. Nous devons essayer d'équilibrer les exigences concurrentes, de suivre les lois de l'Évangile dans notre vie personnelle et nos enseignements, tout en cherchant à aimer notre prochain. Ce faisant, bien que nous n'ayons pas à craindre, nous rencontrons parfois ce qu'Ésaïe appelait l'opprobre des hommes. Les saints des derniers jours convertis croient que la déclaration sur la famille, énoncée il y a près d'un quart de siècle et traduite dans une multitude de langues, est un rappel important par le Seigneur des vérités de l'Évangile dont nous avons besoin pour nous défendre contre les attaques que subit actuellement la famille. Le mariage entre personnes du même sexe et le concubinage en sont deux exemples. 18 ans à peine après la déclaration sur la famille, la Cour suprême des États-Unis a autorisé le mariage entre personnes de même sexe, rejetant le mariage limité à un homme et une femme en vigueur depuis des milliers d'années. Aux États-Unis, le pourcentage choquant d'enfants nés d'une mère et d'un père non mariés a augmenté plus graduellement, 5% en 1960, 32% en 1995 et 40% aujourd'hui. La déclaration sur la famille commence par énoncer que le mariage de l'homme et de la femme est ordonné de Dieu et que la famille est essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants. Elle affirme aussi que le sexe masculin ou féminin est une caractéristique essentielle de l'identité et de la raison d'être individuelle prémortelle, mortelle et éternelle. Elle ajoute que Dieu a ordonné que les pouvoirs sacrés de procréation ne doivent être employés qu'entre l'homme et la femme, légitimement mariés. Elle confirme le devoir immuable du mari et de sa femme de se multiplier et de remplir la terre, et leur responsabilité solennelle de s'aimer et de prendre soin l'un de l'autre et de leurs enfants. Les enfants ont le droit de naître dans les liens du mariage et d'être élevés par un père et une mère qui honorent leurs vœux de mariage dans la fidélité totale. Elle met solennellement en garde les personnes qui font subir des sévices à leurs conjoints ou à leurs enfants et affirme que l'on a le plus de chances d'atteindre le bonheur en famille lorsque celle-ci est fondée sur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Finalement, elle appelle à promouvoir des mesures officielles destinées à sauvegarder et à fortifier la famille dans son rôle de cellule de base de la société. En 1995, un président de l'Église et 14 apôtres du Seigneur ont publié ces importantes déclarations doctrinales. Étant l'un des 7 apôtres encore vivants de ce groupe, je me sens obligé de dire, pour l'information de tous, ce qui a conduit à la déclaration sur la famille. Il y a plus de 23 ans, les dirigeants de l'Église ont reçu l'inspiration qu'il était nécessaire de faire une déclaration sur la famille. C'était une surprise pour certains qui pensaient que les vérités doctrinales sur le mariage et la famille étaient bien comprises et n'avaient pas besoin d'être réaffirmées. Néanmoins, nous en avons ressenti la confirmation et nous nous sommes attelés à la tâche. Des sujets ont été identifiés et débattus par les membres du Collège des 12 apôtres pendant près d'une année. Un texte a été proposé, révisé et corrigé. Nous avons sans cesse demandé au Seigneur de nous accorder son inspiration concernant ce qui devait être dit et sur la manière de le dire. Nous avons tous appris, ligne sur ligne, précepte sur précepte, comme le Seigneur l'a promis. Au cours de ce processus de révélation, le texte proposé a été présenté à la première présidence qui supervise et promulgue les enseignements et la doctrine de l'Église. Une fois qu'elle y a eu apporté les dernières modifications, la déclaration sur la famille a été annoncée par le président de l'Église, Gordon B. Hinckley, lors de la réunion des femmes du 23 septembre 1995. Il a présenté la déclaration en ces termes. Avec tous les raisonnements spécieux qui sont présentés comme des vérités, avec toutes les tromperies sur les principes, avec toutes les incitations à nous laisser gagner peu à peu par la souillure du monde, nous nous sentons poussés à lancer un avertissement. Je témoigne que la déclaration sur la famille est l'affirmation de la vérité éternelle, de la volonté du Seigneur pour ses enfants qui recherchent la vie éternelle. Elle est la base de l'enseignement et des pratiques de l'Église depuis 22 ans et continuera de l'être dans l'avenir. Considérez-la comme telle, enseignez-la, vivez-la, alors que vous dirigez vers la vie éternelle, vous serez bénis. Il y a 42 ans, Ezra Taft Benson a enseigné. Chaque génération a ses propres mises à l'épreuve et son occasion de faire ses preuves. Je crois que notre attitude à l'égard de la déclaration sur la famille et l'usage que nous en faisons est l'une des mises à l'épreuve de cette génération. Je prie que tous les saints des derniers jours restent fermes dans cette mise à l'épreuve. Je termine par ce qu'a enseigné Gordon B. Hinckley 2 ans après avoir fait l'annonce de la déclaration sur la famille. Il a dit « Je vois un avenir magnifique dans un monde extrêmement incertain. Si nous nous attachons à nos valeurs, si nous construisons sur ce qui nous a été légué, si nous marchons dans l'obéissance au Seigneur, si nous vivons simplement l'Évangile, nous serons extrêmement bénis. Nous serons considérés comme un peuple à part qui a trouvé la clé d'un bonheur tout particulier. Je témoigne de la véracité, de l'importance éternelle de la déclaration sur la famille, révélée par le Seigneur Jésus-Christ à ses apôtres pour l'exaltation des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
The choir and congregation will now join the choir in singing High on the Mountaintop. After the singing, we will hear from...
Le chœur et l'assemblée vont maintenant se lever et chanter Tout au sommet des monts, le numéro 4 dans le recueil de cantiques français. Après le chant, nous écouterons John P. Griffiths des 70. Il sera suivi de Todd Christofferson du Collège des 12 apôtres. Après le discours de frère Christofferson, le chœur chantera L'amour de Dieu, le numéro 46 dans le recueil de cantiques français.
Vous assistez à la 187e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours.
Dieu a dit à Moïse, « J'ai une œuvre pour toi. » Ne vous êtes-vous jamais demandé si notre Père Céleste avait une œuvre pour vous? Y a-t-il des choses importantes à accomplir pour lesquelles il vous a personnellement préparé? Je témoigne que la réponse est oui. Prenons l'exemple de Girish Ghimir, qui est né et a grandi au Népal. À l'adolescence, il est allé étudier en Chine, où l'un de ses camarades de classe lui a fait connaître l'Évangile de Jésus-Christ. Par la suite, il est allé faire un master à l'université de Brigham Young, où il a rencontré celle qui allait devenir sa femme. Ils se sont installés dans la vallée du lac Salé et ont adopté deux enfants népalais. Des années plus tard, quand plus de 1500 réfugiés népalais ont été envoyés en Utah, Girish s'est senti poussé à apporter son aide. Comme il maîtrisait la langue et la culture népalaise, il a servi d'interprète, d'instructeur et de mentor. Après s'être installé dans la communauté, un certain nombre de réfugiés népalais se sont intéressés à l'Évangile. Une branche népalaise a été organisée et Girish y a servi en tant que président de branche. Il a également aidé à la traduction du Livre de Mormon en népalais. Voyez-vous comment notre Père Céleste a préparé Girish et comment il se sert de lui? Frères et sœurs, Dieu a une grande œuvre pour chacun d'entre nous. Lors d'un discours qui s'adressait aux sœurs, mais dans lequel il enseignait des vérités qui s'appliquent à tous, le président Kimball a déclaré, « Avant notre venue sur Terre, nous avons reçu certaines affectations. Bien que nous ne souvenions pas des détails, cela ne change rien à la réalité sublime de ce que nous avons jadis accepté. Quelle vérité ennoblissante! Notre Père Céleste a des choses importantes à nous faire accomplir, vous et moi. Ces affectations divines ne sont pas réservées à quelques privilégiés, mais sont pour nous tous, quel que soit notre sexe, race, nationalité, niveau de revenu, statut social ou appel dans l'Église. Chacun d'entre nous a un rôle important à jouer pour promouvoir l'œuvre de Dieu. Certains d'entre nous se demandent si notre Père Céleste peut se servir de nous pour réaliser de grandes choses. Mais souvenez-vous qu'il s'est toujours servi de gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Nous avons en nous le pouvoir d'agir par nous-mêmes pour produire beaucoup de justice. Le président Nelson du Collège des 12 apôtres a expliqué, « Le Seigneur a en vue pour vous davantage que vous n'avez en vue pour vous-même. Vous avez été réservé et préservé pour cette époque et ce lieu. Le Seigneur a besoin de vous pour changer le monde. En acceptant et en suivant sa volonté à votre égard, vous pourrez réaliser l'impossible. » Alors comment pouvons-nous comprendre et accomplir l'œuvre que Dieu nous destine? Je vais vous indiquer quatre principes pour vous aider. Premièrement, concentrez-vous sur autrui. Nous pouvons suivre le Christ qui allait de lieu en lieu en faisant du bien. Après être rentré de ma mission à plein temps, je n'avais plus d'objectif quotidien et cela me manquait. De toute évidence, je devais respecter mes alliances, étudier, fonder un foyer et gagner ma vie. Mais je me demandais s'il y avait quelque chose de plus ou quelque chose de spécial que le Seigneur voulait que je fasse. Après avoir médité pendant des mois, je suis tombé sur ce verset. « Si tu le désires, il se fera par ton intermédiaire beaucoup de bien dans cette génération. » L'Esprit m'a permis de comprendre que l'objectif principal des affectations divines est de bénir les autres en nous donnant la possibilité de faire beaucoup de bien. Nous pouvons réfléchir aux décisions importantes à prendre dans la vie, par exemple, quelles études entreprendre, quel métier choisir et où habiter, dans l'optique d'aider les autres. Une famille a déménagé dans une nouvelle ville. Au lieu de choisir un quartier aisé, ces personnes ont ressenti qu'elles devaient s'installer dans un quartier aux besoins économiques et sociaux importants. Pendant des années, le Seigneur a œuvré par l'intermédiaire pour soutenir beaucoup de gens et renforcer leur paroisse et leurs pieux. Tout en continuant d'exercer normalement, un professionnel de la santé s'est senti poussé à consacrer un jour par semaine à donner gratuitement des soins aux personnes sans couverture médicale. Parce que cet homme et sa femme étaient disposés à bénir les autres, le Seigneur leur a donné les moyens d'assister des centaines de patients dans le besoin tout en élevant leur famille nombreuse. Deuxièmement, découvrez et cultivez vos dons spirituels. Notre Père Céleste nous a donné ses dons pour nous aider à trouver, accomplir et apprécier l'œuvre qu'il nous destine à faire. Certains de nous se demandent, ai-je même un don? Une fois de plus, la réponse est oui. Chacun reçoit un don par l'Esprit de Dieu afin que tous en profitent. Plusieurs dons spirituels sont indiqués dans les Écritures, mais il y en a bien d'autres. On pourrait mentionner, par exemple, avoir de la compassion, exprimer de l'espoir, avoir de bons rapports avec les gens, être bien organisé, parler ou écrire avec persuasion, enseigner de façon claire et travailler dur. Comment pouvons-nous découvrir nos dons? Nous pouvons nous reporter à notre bénédiction patriarcale, demander aux gens qui nous connaissent le mieux et trouver personnellement ce que nous faisons naturellement bien et aimons faire. Mais surtout, nous pouvons demander à Dieu. Il connaît nos dons puisqu'il nous les a octroyés. Quand nous découvrons nos dons, nous avons la responsabilité de les cultiver. Jésus lui-même n'a pas reçu la plénitude dès l'abord, mais a continué de grâce en grâce. Un jeune homme a réalisé des illustrations afin de promouvoir des valeurs religieuses. Ma préférée est un portrait du Sauveur, dont nous avons affiché une copie chez nous. Ce frère a cultivé et utilisé ses talents artistiques. Par son intermédiaire, notre Père Céleste a inspiré des membres de sa paroisse à améliorer leur vie de disciples. Parfois, nous avons l'impression que nous n'avons aucun don particulièrement important. Un jour, une jeune sœur découragée a supplié, « Seigneur, quelle est ma mission personnelle ?» Il lui a répondu, « Remarque les autres. » C'était un don spirituel. Depuis, elle a trouvé de la joie à remarquer les personnes qui sont souvent oubliées, et Dieu s'est servi d'elle pour bénir beaucoup d'entre elles. Bien que certains de nos dons puissent paraître insignifiants aux yeux du monde, ils sont essentiels pour Dieu et son œuvre. Troisièmement, servez-vous de l'adversité. Nos épreuves nous aident à découvrir l'œuvre que notre Père Céleste veut nous confier et à nous y préparer. Alma a enseigné, « Après beaucoup de tribulations, le Seigneur a fait de moi un instrument entre ses mains. » Tout comme le Sauveur, à qui son sacrifice expiatoire permet de nous secourir, nous pouvons employer les connaissances acquises grâce à nos épreuves pour édifier, fortifier et bénir les autres. Après avoir été renvoyé malgré son efficacité, un directeur des ressources humaines a relu sa bénédiction patriarcale et s'est senti inspiré à créer une entreprise pour aider d'autres cadres à trouver du travail. Il m'a même aidé à retrouver du travail à mon retour d'une mission avec ma famille. Le Seigneur s'est servi de son épreuve comme tremplin pour qu'il bénisse d'autres personnes, tout en lui offrant une carrière professionnelle plus passionnante. Un jeune couple a connu la douleur d'avoir un bébé mort-né. Le cœur brisé, cet homme et sa femme ont décidé d'honorer leur fille en offrant des conseils et un soutien matériel aux parents qui traversent des épreuves similaires. Le Seigneur a agi par l'intermédiaire de ce couple du fait de sa profonde compassion acquise dans l'adversité. Quatrièmement, reposez-vous sur Dieu. Si nous nous adressons à lui avec foi et une intention réelle, il nous révélera les tâches qui nous destinent. Une fois que nous les aurons découvertes, le Seigneur nous aidera à les accomplir. Toutes les choses sont présentes devant ses yeux. Et au moment opportun, il nous ouvrira les portes nécessaires. Il a même envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour que nous puissions nous appuyer sur lui et obtenir de la force au-delà de nos capacités naturelles. Un frère inquiet, à cause des décisions du gouvernement local, s'est senti poussé à présenter sa candidature aux élections. Malgré une campagne exigeante, il a fait preuve de foi et s'est donné tous les moyens pour réussir. Finalement, il n'a pas été élu, mais il a ressenti que le Seigneur l'avait guidé et fortifié pour qu'il soulève des points importants pour la collectivité. Une mère célibataire qui élève des enfants souffrant de retard mental se demandait comment elle allait subvenir aux besoins de sa famille. Malgré la difficulté, elle se sent fortifiée par le Seigneur pour accomplir efficacement son importante mission. Au moment où Dieu nous aide à accomplir nos affectations divines, l'adversaire s'emploie à nous en détourner et à nous dissuader de mener une vie qui a du sens. Le péché est probablement notre plus grande pierre d'achoppement. Il émousse notre sensibilité au Saint-Esprit et nous empêche de recevoir de la force spirituelle. Pour accomplir l'œuvre que notre Père Céleste a prévue pour nous, nous devons nous efforcer d'être purs. Vivons-nous de telle sorte que Dieu peut agir par notre intermédiaire? Satan cherche aussi à nous distraire par des choses moins importantes. Le Seigneur a donné l'avertissement suivant à un dirigeant des débuts de l'Église. « Ton esprit s'est préoccupé davantage des choses de la terre que de mes choses à moi et du ministère auquel tu as été appelé. Sommes-nous préoccupés par les choses du monde au point d'en oublier les tâches que Dieu nous a confiées? De plus, Lucifer nous décourage en nous donnant l'impression que nous ne sommes pas à la hauteur. Il fait apparaître notre tâche comme trop difficile ou intimidante. Cependant, nous pouvons avoir confiance en Dieu. Il nous aime et il veut que nous réussissions. L'Éternel marchera lui-même devant nous, il sera lui-même avec nous et ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera point. Satan veut nous persuader que notre œuvre a moins de valeur que celle des autres. Mais chaque affectation donnée par Dieu est importante. Nous nous accomplirons si nous nous glorifions de ce que le Seigneur nous a commandé. Quand Dieu se manifeste à travers nous, le malin tente de nous persuader que tout le mérite lui nous revient. Toutefois, nous pouvons suivre l'exemple d'humilité du Sauveur, en n'acceptant pas les louanges à notre égard et en glorifiant le Père. Quand un journaliste a tenté de féliciter Mère Teresa d'avoir consacré sa vie entière à aider les pauvres, elle a répondu, « C'est l'œuvre de Dieu. Je suis comme un crayon dans sa main. C'est lui qui pense, c'est lui qui écrit. Le crayon n'a rien à voir avec cela. Le crayon n'a qu'à être autorisé à être utilisé. » Mes chers frères et sœurs, je nous invite tous à nous donner à Dieu comme des instruments de justice. Se donner à lui implique de lui faire savoir que nous souhaitons être utiles, de chercher à être guidés par lui et puiser sa force. Comme toujours, nous pouvons prendre Jésus-Christ comme exemple parfait. Dans la vie prémortelle, notre Père Céleste nous a demandé « Qui enverrai-je » Et Jésus a répondu « Me voici, envoie-moi ».
Jésus-Christ a accepté son rôle préordonné de sauveur et rédempteur. S'y est préparé et l'a accompli. Il a fait la volonté du Père et a rempli sa mission divine. Je témoigne que si nous suivons l'exemple du Christ et consacrons notre personne à Dieu, il nous utilisera pour faire avancer son œuvre et pour bénir les autres. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Le lendemain du jour où il avait miraculeusement nourri 5000 personnes en Galilée avec seulement 5 pains d'orge et 2 poissons, Jésus a de nouveau parlé aux gens à Capernaum. Le Sauveur aperçut que beaucoup n'aspiraient pas tant à entendre ses enseignements qu'à être nourris de nouveau. Par conséquent, il a essayé de les convaincre de la valeur immensément plus grande de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle que le Fils de Dieu, que le Fils de l'homme leur donnerait. Jésus a déclaré, « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Le sens que le Sauveur voulait donner à sa déclaration a complètement échappé à ses auditeurs, qu'ils n'ont comprise que littéralement. Avec dégoût, ils se sont demandé, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus a insisté, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. » Il a ensuite expliqué la signification profonde de sa métaphore. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Les gens qui l'écoutaient n'ont toujours pas compris ce qu'il disait. Et plusieurs, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Manger sa chair et boire son sang est une manière frappante d'exprimer la nécessité de faire entrer le Sauveur complètement dans notre vie, dans notre être même, pour être un. Comment fait-on cela? Premièrement, nous comprenons qu'en sacrifiant sa chair et son sang, Jésus-Christ a expié pour nos péchés et a vaincu la mort physique et la mort spirituelle. Il devient clair alors que nous mangeons sa chair et buvons son sang quand nous recevons de lui le pouvoir et les bénédictions de son expiation. La doctrine du Christ exprime ce que nous devons faire pour recevoir la grâce expiatoire. Cela consiste à croire au Christ et à avoir foi en lui, à se repentir et à se faire baptiser et à recevoir le Saint-Esprit. Et ensuite vient le pardon des péchés par le feu et par le Saint-Esprit. C'est la porte. Notre accès à la grâce expiatoire du Sauveur et au chemin droit et resserré qui mène à son royaume. C'est pourquoi, si vous marchez résolument sur ce chemin, vous faisant un festin de la parole du Christ et persévérez jusqu'à la fin, voici, ainsi dit le Père, vous aurez la vie éternelle. Et maintenant, voici, telle est la doctrine du Christ et la seule et vraie doctrine du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui sont un seul Dieu, sans fin. La beauté du symbolisme de la Sainte Cène mérite que l'on s'y attarde. Le pain et l'eau représentent la chair et le sang de celui qui est le pain de vie et l'eau vive, nous rappelant d'une manière poignante le prix qu'il a payé pour nous racheter. Pendant que l'on rompt le pain, nous nous rappelons la chair déchirée du Sauveur en train de souffrir. Dallin Hawkes a fait observer, parce qu'il a été rompu, chaque morceau de pain est unique, tout comme les individus qui en prennent sont uniques. Nous avons tous des péchés différents dont nous devons nous repentir. Nous avons tous besoin d'être fortifiés différemment par l'expiation du Seigneur Jésus-Christ dont nous nous souvenons dans cette ordonnance. Quand nous buvons l'eau, nous pensons au sang qu'il a versé à Gethsémané sur la croix et à son pouvoir sanctificateur, sachant que rien d'impur ne peut entrer dans son royaume. Nous prenons la résolution de faire partie de ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang du Sauveur à cause de leur foi et du repentir de tous leurs péchés et de leur fidélité jusqu'à la fin. J'ai parlé de recevoir la grâce expiatoire du Sauveur pour que soient ôtés nos péchés et les taches que ces péchés laissent en nous. Mais pour parler au figuré, manger sa chair et boire son sang a un sens supplémentaire. C'est intérioriser les qualités et les traits de caractère du Christ en se dépouillant de l'homme naturel et en devenant des saints par l'expiation du Christ le Seigneur. En prenant le pain et l'eau de la Sainte Cène chaque semaine, nous ferions bien de réfléchir à la nécessité qui est la nôtre d'incorporer complètement sa personnalité et le modèle de sa vie sans péché dans notre vie et notre être. Jésus n'aurait pas pu expier les péchés d'autrui s'il n'avait été lui-même sans péché. Comme la justice n'avait pas de droit sur lui, il pouvait s'offrir à notre place pour satisfaire la justice et ensuite offrir la miséricorde. Quand nous nous rappelons et honorons son sacrifice expiatoire, nous devons aussi méditer sur sa vie sans péché. Cela implique la nécessité d'un très grand effort de notre part. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de rester comme nous sommes. Nous devons progresser constamment vers la mesure de la stature parfaite de Christ. Comme le père du roi Lamonie dans le livre de Mormon, nous devons être disposés à délaisser tous nos péchés et à nous concentrer sur ce que le Seigneur attend de nous individuellement et collectivement. Il n'y a pas longtemps, un ami m'a raconté une expérience qu'il avait vécue quand il était président de mission. Il avait subi une opération qui nécessitait plusieurs semaines de convalescence. Pendant sa convalescence, il a consacré du temps à méditer les Écritures. Un après-midi, alors qu'il méditait sur les paroles du Sauveur dans le 27e chapitre de 3 Néphi, il s'est assoupi. Voici son récit. J'ai fait un rêve dans lequel j'ai eu une vision panoramique très vivante de ma vie. J'ai vu mes péchés, mes mauvais choix, les fois où j'avais traité les gens avec impatience, et aussi les omissions des bonnes choses que j'aurais dû dire ou faire. Ma vie m'a été montrée entièrement en quelques minutes seulement, mais cela m'a paru beaucoup plus long. Je me suis réveillé, surpris, et je suis tombé à genoux instantanément près du lit et me suis mis à prier pour supplier d'être pardonné, déversant les sentiments de mon cœur comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Avant le rêve, je ne savais pas que j'avais un si grand besoin de me repentir. Mes fautes et mes faiblesses sont soudain devenues si claires à mes yeux que la distance entre la personne que j'étais et la sainteté et la bonté de Dieu semblait être à des millions de kilomètres. Dans ma prière, en cette fin d'après-midi, j'ai exprimé de tout mon cœur ma reconnaissance la plus profonde à mon Père céleste et au Sauveur pour ce qu'ils avaient fait pour moi et pour les relations que je chérissais avec ma femme et mes enfants. Pendant que j'étais à genoux, j'ai aussi ressenti l'amour et la miséricorde de Dieu d'une manière très tangible, en dépit de mon sentiment d'indignité. Je peux dire que je ne suis plus le même depuis ce jour. Mon cœur a changé. J'ai acquis plus d'empathie, une plus grande capacité d'aimer mon prochain, ainsi que le sentiment de l'urgence de prêcher l'Évangile. je pouvais appliquer à ma vie les messages sur la foi, l'espérance et le don du repentir qui se trouvent dans le livre de Mormon comme jamais auparavant. Il est important de remarquer que cette révélation très vivante que ce frère a eue de ses péchés et de ses imperfections ne l'a pas découragé ni conduit au désespoir. Oui, il a ressenti un choc et éprouvé du remords. Il a ressenti de manière très vive son besoin de se repentir. Il avait été amené à l'humilité, et pourtant il éprouvait de la reconnaissance, de la paix et de l'espérance, une espérance véritable grâce à Jésus-Christ, le pain vivant qui est descendu du ciel. Mon ami a parlé de l'écart perçu dans son rêve entre sa vie et la sainteté de Dieu. Sainteté est le mot juste. Manger la chair et boire le sang du Christ signifie rechercher la sainteté. Dieu a donné ce commandement. Vous serez saints car je suis saint. Enoch nous fait cette recommandation. Enseigne-le à tes enfants que tous les hommes de partout doivent se repentir, sinon ils ne pourront en aucune façon hériter le royaume de Dieu, car rien d'impur ne peut y demeurer ou demeurer en sa présence. Car dans la langue d'Adam, homme de sainteté est son nom, et le nom de son fils unique est le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Quand j'étais enfant, je me demandais pourquoi dans le Nouveau Testament, on appelle souvent Jésus, et il le fait lui-même, le Fils de l'homme, alors qu'en réalité, il est le Fils de Dieu. Mais la déclaration de Enoch montre clairement que cette appellation est en fait une reconnaissance de sa divinité et de sa sainteté. Il est le Fils de l'homme de sainteté, Dieu le Père. Si nous aspirons à demeurer en Christ et à ce qu'il demeure en nous, alors ce que nous recherchons est la sainteté de corps et d'esprit. Au temple, nous recherchons l'inscription où est gravé « Sainteté au Seigneur ». Nous la recherchons dans notre mariage, notre famille et notre foyer. Nous la recherchons chaque semaine quand nous nous faisons un délice du Saint Jour du Seigneur. Nous la recherchons même dans les détails de la vie quotidienne, notre façon de parler, notre tenue vestimentaire, nos pensées. Comme l'a dit le président Monson, nous sommes le produit de tout ce que nous lisons, regardons, entendons et pensons. Nous recherchons la sainteté en prenant notre croix chaque jour. Carol F. McConkie a dit, nous sommes conscientes de la multitude de tentations et d'épreuves qui peuvent nous détourner de tout ce qui est vertueux et digne de louange devant Dieu. Mais nos expériences de la condition mortelle nous offrent la possibilité de choisir la sainteté. Très souvent, ce sont les sacrifices que nous faisons pour respecter nos alliances qui nous sanctifient et nous rendent saints. Et aux sacrifices que nous faisons, j'ajouterai également le service que nous rendons. Nous savons que lorsque nous sommes au service de nos semblables, nous sommes simplement au service de notre Dieu. Le Seigneur nous rappelle que ce service est l'essence de sa vie et de sa personnalité. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Marianne G. Romney a enseigné avec sagesse. Le service n'est pas quelque chose que nous devons endurer sur cette terre afin de pouvoir mériter le droit de vivre dans le royaume céleste. Le service est la fibre même dont est constituée la vie exaltée dans le royaume céleste. Zacharie a prophétisé qu'à l'époque du règne millénaire du Seigneur, les clochettes de chevaux porteraient l'inscription « Sainteté à l'Éternel ». Dans cet esprit, les pionniers de ces vallées apposaient ce rappel « Sainteté au Seigneur » sur des choses apparemment ordinaires ou banales, aussi bien que sur celles en lien plus direct avec la pratique religieuse. C'était inscrit sur les coupes et les plateaux pour la Sainte Cène et imprimé sur les certificats d'ordination des 70 et sur une bannière de la Société de Secours. Sainteté au Seigneur figurait aussi sur les vitrines du magasin de la ZCMI, Institut coopératif commercial. Cette inscription se trouvait sur la tête d'un marteau ou sur un tambour. Sainteté au Seigneur était inscrit sur les boutons de porte en métal de la maison de Brigham Young. Ces références à la sainteté dans des endroits plutôt inhabituels ou inattendus peuvent paraître incongrues à certains, mais elles dénotent à quel point notre attachement à la sainteté doit être omniprésent et constant. Manger la chair du Sauveur et boire son sang signifie supprimer de notre vie tout ce qui est incompatible avec une personnalité chrétienne et acquérir ses vertus. C'est le sens le plus large du repentir. Non seulement on se détourne des péchés passés, mais on tourne son cœur et sa volonté vers Dieu. Et on va de l'avant. Comme c'est arrivé à mon ami dans son rêve révélateur, Dieu nous montrera nos défauts et nos échecs, mais il nous aidera également à changer nos faiblesses en force. Si nous demandons sincèrement « Que me manque-t-il encore ?», il ne nous laissera pas deviner. Mais avec amour, il répondra pour notre bonheur et il nous donnera l'espérance. C'est un effort intense et ce serait terriblement décourageant si dans notre quête de la sainteté, nous étions seuls. La vérité sublime est que nous ne sommes pas seuls. Nous avons l'amour de Dieu, la grâce du Christ, le réconfort et l'aide du Saint-Esprit, et la compagnie et les encouragements des autres membres du corps du Christ. Ne nous satisfaisons pas de notre situation, mais ne nous décourageons pas non plus. Comme nous le demande ce cantique simple mais profond, prends le temps pour être saint, évite le monde et sa démence. Passe du temps seul avec Jésus en secret. En recherchant Jésus, de lui tu pourras t'approcher, et dans ta conduite, tes amis verront la ressemblance. Je témoigne de Jésus-Christ, le pain vivant qui est descendu du ciel, et que celui qui mange sa chair et qui boit son sang a la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Thank you.
Nous remercions tous ceux qui ont participé à la réunion de ce matin, et en particulier le Mormon Tabernacle Choir, pour la belle musique qu'il nous a offerte ce matin. Le dernier orateur de cette session sera Jeffrey Holland, du Collège des Douze Apôtres. Après le discours de Frère Holland, le chœur terminera cette réunion en chantant « Nos pas guidés par la foi ». Ensuite, Massimo De Feo, des 70, fera la prière de clôture.
Les Écritures ont été rédigées pour nous bénir et nous encourager. Et elles le font incontestablement. Nous remercions le ciel pour chaque chapitre et chaque verset qui nous ont été donnés. Mais avez-vous remarqué que de temps à autre, un passage surgit et nous rappelle que nous ne sommes pas tout à fait à la hauteur? Par exemple, le sermon sur la montagne commence par des béatitudes apaisantes et douces, mais dès le verset suivant, il est dit, entre autres, non seulement de ne pas tuer, mais même de ne pas nous mettre en colère. Il nous est dit non seulement de ne pas commettre d'adultère, mais même de ne pas avoir de pensée impure. À qui il demande, nous devons donner notre tunique ainsi que notre manteau. Nous devons aimer nos ennemis, bénir qui nous maudit et faire du bien à qui nous hait. Si c'est votre étude du matin, si nous sommes quasi certains de ne pas obtenir de bonnes notes sur notre bulletin de l'Évangile, à ce point de la lecture, le dernier commandement de la liste nous ôtera tout espoir. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Après cette injonction finale, il ne nous reste plus qu'à aller nous coucher et à nous enfouir sous notre couverture. De tels buts célestes paraissent au-delà de notre portée. Pourtant, le Seigneur ne nous donnerait jamais un commandement sachant que nous ne pourrions pas le respecter. Voyons où ce dilemme nous conduit. Partout dans l'Église, j'entends de nombreuses personnes aux prises avec ce problème dire « Je ne suis pas assez bien. Je suis loin d'être à la hauteur. Je ne serai jamais à la hauteur. » Je l'entends de la bouche d'adolescents, de la bouche de missionnaires, de la bouche de nouveaux convertis, de la bouche de personnes qui ont été membres toute leur vie. Darla Isaacson, une sainte des derniers jours perspicace, a remarqué que Satan a trouvé le moyen de faire en sorte que les alliances et les commandements ressemblent à des malédictions et des condamnations. Pour certains, il a inversé les idéaux et l'inspiration de l'Évangile pour qu'ils portent à la haine de soi et rendent malheureux. Ce que je dis en ce moment ne renie ni ne diminue en rien aucun des commandements que Dieu nous a donnés. Je crois en sa perfection et je sais que nous sommes ses filles et fils spirituels dotés du potentiel de devenir comme lui. Je sais aussi qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous rabaisser et nous dénigrer, comme si l'autoflagellation allait, on ne sait comment, faire de nous la personne que Dieu veut que nous devenions. Non ! J'espère qu'avec la volonté de nous repentir et le désir d'avoir une plus grande justice dans le cœur, nous pourrons poursuivre notre progression personnelle sans nous faire d'ulcères ou devenir boulimiques, sans nous sentir déprimés ou sans démolir l'estime que nous avons de nous-mêmes. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour les enfants de la primaire ou quiconque chante en toute sincérité « Jésus-Christ est mon modèle ». Pour placer cette question dans son contexte, je rappelle à chacun de nous que nous vivons dans un monde déchu, et que pour l'instant, nous sommes un peuple déchu. Nous sommes dans le royaume céleste, épelé avec un T, pas avec un C. Comme le président Nelson l'enseignait dans la condition mortelle, la perfection est encore en devenir. Dans son sermon, Jésus n'a jamais eu l'intention de nous adresser des coups de massue verbales pour nous rabâcher nos lacunes. Non, il voulait rendre hommage à Dieu, le Père éternel, et nous montrer ce que nous pouvions accomplir avec lui dans l'éternité. En tout cas, je suis reconnaissant de savoir qu'en dépit de mes imperfections, Dieu, lui, est parfait. Et qu'il peut, par exemple, aimer ses ennemis. Car trop souvent, à cause de l'homme ou de la femme naturelle, en nous, vous et moi sommes ses ennemis. Comme je suis reconnaissant que Dieu puisse bénir ceux qui le maltraitent, parce que même sans le vouloir ou sans chercher à le faire, nous le maltraitons tous parfois. Je suis reconnaissant qu'au moins Dieu soit miséricordieux et artisan de la paix, parce que j'ai besoin de sa miséricorde et que le monde a besoin de paix. Bien entendu, toutes les vertus que nous attribuons au Père, nous les attribuons aussi à son Fils unique, qui a vécu, est mort et a atteint la même perfection. Je me hâte d'ajouter que le fait de nous concentrer sur les accomplissements du Père et du Fils au lieu de regarder nos échecs ne nous justifie en rien de mener une vie indisciplinée ou d'abaisser nos principes. Non. Dès le commencement, l'Évangile a été pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la mesure de la stature parfaite de Christ. Non, je suggère simplement que l'un des buts d'une écriture ou d'un commandement peut être de nous rappeler à quel point la mesure de la stature parfaite du Christ est vraiment glorieuse, afin d'inspirer en nous un plus grand amour et une plus grande admiration pour lui et un plus grand désir de lui ressembler. Oui, venez au Christ, Moroni supplie, et soyez rendus parfaits en lui. Aimez Dieu de tout votre pouvoir, de toute votre pensée, de toute votre force. Alors, par sa grâce, vous êtes parfaits dans le Christ. Notre seul espoir d'une perfection parfaite est de la recevoir comme étant un cadeau des cieux. Ainsi, la grâce du Christ ne nous sauve pas seulement du chagrin, du péché et de la mort, mais également de notre autocritique incessante. Je vais reprendre l'une des paraboles du Sauveur et la formuler un peu différemment. Un serviteur était endetté auprès de son roi pour un montant de 10 000 talents. En entendant son serviteur le supplier d'être patient et miséricordieux, ému de compassion, le maître de ce serviteur lui remit la dette. Mais par la suite, ce même serviteur refusa de remettre une somme de 100 deniers que lui devait un autre serviteur. Apprenant cela, le roi dit, attristé à celui à qui il avait remis sa dette, « Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Les opinions des érudits divergent concernant les valeurs monétaires mentionnées ici. Mais pour faciliter le calcul, si la petite dette non remise de 100 deniers correspondait à, par exemple, 100 dollars de notre époque, alors la dette de 10 000 talents, si gracieusement remise, représenterait près d'un milliard de dollars ou davantage. Pour une dette personnelle, le montant est astronomique. Il dépasse totalement notre entendement. Personne ne peut rassembler une somme pareille. Pour les besoins de cette parabole, il est censé être incompréhensible. Il est censé être au-delà de notre capacité d'assimilation, sans parler de notre incapacité de rembourser. Il en est ainsi parce que cette histoire n'est pas l'histoire de deux serviteurs qui se disputent dans le Nouveau Testament. C'est une histoire qui parle de nous. Toute la famille humaine, débiteurs mortels, transgresseurs et prisonniers. Chacun de nous est un débiteur, et le verdict était l'emprisonnement pour chacun d'entre nous. Nous y serions restés s'il n'y avait pas eu la grâce de notre roi qui nous libère parce qu'il nous aime et est ému de compassion envers nous. Jésus utilise ici des mesures inimaginables parce que son expiation est un don inimaginable au coût incommensurable. C'est à mon avis, au moins partiellement, la signification que recouvre le commandement de Jésus d'être parfait. Peut-être ne pourrons-nous pas atteindre la perfection des 10 000 talents atteints par le Père et le Fils. Et venant de leur part, il n'est pas trop exagéré qu'ils nous demandent d'être plus semblables à eux dans les petites choses, telles que nos paroles et nos actes, que nous pardonnions et oublions, que nous nous repentions et progressions, au moins jusqu'à un niveau de perfection de 100 deniers, qui est clairement à notre portée. Mes frères et sœurs, à l'exception de Jésus, personne n'a réalisé de performance sans faille au cours du voyage terrestre que nous effectuons. Efforçons-nous, tout au long de notre vie, de nous améliorer inlassablement, sans pour autant être obsédés par ce que les spécialistes du comportement appellent le perfectionnisme toxique. Nous devons l'éviter pour nous-mêmes, pour les autres, ainsi que pour tous ceux qui servent dans l'Église, ce qui, pour les saints des derniers jours, signifie tout le monde, car nous sommes tous appelés à servir quelque part. À cet égard, Léon Tolstoï a écrit l'histoire d'un prêtre critiqué par l'un de ses paroissiens, qui jugeait qu'il n'était pas aussi résolu qu'il aurait dû l'être, et en avait conclu que les principes que ce prêtre égaré prêchait étaient faux. En réponse à cette critique, le prêtre dit « Regardez ma vie aujourd'hui et comparez-la à ma vie d'avant. Vous verrez que j'essaye de vivre selon la vérité que je proclame, incapable d'être à la hauteur des idéaux élevés qu'il enseignait. » Le prêtre admet qu'il a échoué, mais il dit « Attaquez-moi si vous le souhaitez. Je suis le coupable. Mais n'attaquez pas le chemin que je veux suivre. Si je connais le chemin pour retourner à la maison, mais que je suis sous tout le long, est-ce pour autant le mauvais chemin, simplement parce que je titube d'un côté ou de l'autre ? Ne jubilez pas en vous écriant « Regardez-le, il est là, rampant dans un marécage. » Non, n'exultez pas, mais apportez votre aide à celui qui essaye de marcher sur la route qui ramène à Dieu. Mes frères et sœurs, Chacun de nous aspire à mener une vie plus chrétienne que celle que nous réussissons habituellement à vivre. Si nous admettons cela honnêtement et que nous essayons de nous améliorer, nous ne sommes pas des hypocrites, nous sommes humains. Puissions-nous refuser que nos folies de la condition mortelle et les inévitables défauts, même des meilleurs hommes et femmes qui nous entourent, ne nous rendent cyniques à l'égard des vérités de l'Évangile ou de l'espoir en l'avenir ou en la possibilité d'une piété sincère. Si nous persévérons, notre perfectionnement sera entier et total dans les éternités. C'est ainsi que le Nouveau Testament définit la perfection. Je témoigne de cette merveilleuse destinée accessible grâce à l'expiation du Seigneur Jésus-Christ, qui reçut de grâce en grâce jusqu'à ce que dans son immortalité, il reçut une plénitude absolue de la gloire céleste. Je témoigne qu'à cette heure même et à chaque heure, il tend ses mains qui portent la marque des clous pour nous accorder cette même grâce et nous encourager jusqu'à ce que nous soyons en sécurité dans les bras de nos parents éternels. Bien que maladroitement, je continue d'essayer dans l'attente de ce moment parfait. Bien que cela ne suffise pas, je continue de remercier pour ce don parfait. Je le fais au nom de celui qui est la perfection même, qui n'a jamais été maladroit ou insuffisant, mais qui aime chacun de nous, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Notre Père céleste bien-aimé, nous nous réjouissons à la fin de cette merveilleuse première session de la conférence générale, ce que nous ressentons, parce que notre foi a été fortifiée. Nous te remercions, Père, pour ton prophète. Nous sommes reconnaissants pour le plan du salut. Nous sommes reconnaissants pour l'expiation de ton Fils. Nous t'aimons, Père. Nous aimons ton Fils, notre Sauveur. Nous prions maintenant pour notre prophète, le président Manson, que les anges veillent sur lui. Nous prions pour nos frères de la première présidence, pour le collège des 12 apôtres. Nous prions pour tous ceux qui rencontrent des difficultés, qui font face à des défis émotionnels, spirituels. Veuillez les fortifier, les réconforter en Christ. Veuillez bénir les missionnaires qui servent dans le monde entier. Qu'ils soient une lumière pour le monde. Nous prions pour les jeunes de l'Église, la génération montante, pour qu'ils puissent trouver leur véritable identité et qu'ils agissent, qu'ils ne soient pas mus. Que nous soyons un en tant que famille, que nous nous réjouissions dans l'Évangile de ton Fils. Et nous te remercions pour les bénédictions de l'expiation et que nous continuons de progresser jusqu'à ce que nous soyons rendus parfaits en Christ. Nous te le demandons humblement et nous t'aimons, Père, au nom de ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 187th semi-annual.
Vous venez d'assister à une session de la 187e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le Mormon Tabernacle Choir. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.